Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel. Left a good job in the
city. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthes, bienvenue sur le 107 FM, nous sommes le mercredi 7 décembre et les 8h30 au programme de cette matinale. Dans un instant, nous partons avec Yannick dans les tourbières sur le Mont Aigoual à la recherche de sondes qui permettent d'avoir des chiffres assez précis sur l'état dans lequel elle se trouve. À quoi ça sert une tourbière et quelles seraient les conséquences si ça finissait par disparaître? Eh bien, on en parle avec Yannick dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, je vous propose de réécouter l'interview de l'équipe du CIDFF, le CIDFF qui a fêté ses 30 ans cette année. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va bien sûr pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. La loi immigration est discutée depuis hier à l'Assemblée. Elle va faire très mal. Plusieurs points piquent sévères. Attention, accrochez-vous et expulsez davantage. Le gouvernement et son ministre Darmanin veulent en premier lieu simplifier les contentieux des étrangers qui engorgent les tribunaux administratifs en passant de 12 recours possibles contre les expulsions à 3. Deux procédures urgentes et une procédure ordinaire. Le texte prévoit également, en cas de menace grave à l'ordre public, de lever les protections contre l'expulsion dont bénéficient certains immigrés, notamment ceux arrivés en France avant 13 ans, ceux y résidant depuis plus de 10 ans et les étrangers mariés à des Français depuis plus de 3 ans. Cette loi veut aussi réformer le système d'asile. Le gouvernement veut engager une réforme structurelle à tous les stades de la demande d'asile avec un double objectif, accélérer les procédures et parvenir à expulser plus rapidement. L'une des mesures phares du texte vise à délivrer une OQTF aux demandeurs d'asile dès le prononcé de la décision de rejet de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans attendre un éventuel recours. En cas d'appel suspensif, l'OQTF sera prise immédiatement, mais son exécution sera reportée à la date de décision de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui statue en appel, précise le document émanant des ministères de l'Intérieur et du Travail. Autrement dit, ce texte vise à favoriser les expulsions et à réduire les demandes de droit d'asile. L'exécutif, qui entend faire du travail le premier lieu de l'intégration des étrangers, veut permettre pourtant aux travailleurs sans papier déjà sur le territoire d'obtenir un titre de séjour spécifique quand ils répondent, je cite, « aux besoins des métiers en tension ». Mais il va falloir définir ce que c'est que ces métiers en tension. Attention à toi, petit saltimbanque d'étranger, en France tu ne fais pas ce que tu veux. Et une pensée pour Chouaïeb, qui lui travailler quand il a été expulsé la semaine dernière.
Essuie la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans. Changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant. Dis-moi, suis la flèche. Dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les heures fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman.
que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche et moi si t'aperçois. Là-bas au loin les jongleurs sans loi.
Je suis parti avec Yannick Mans, chargé de mission au Parc National des Cévennes, dans les tourbières au pied de l'Aigoual, pour récupérer des sondes qui vont lui permettre de les analyser. L'importance des tourbières, leur utilité et les conséquences si elles venaient à disparaître, c'est tout de suite. Ça commence en voiture avec des rencontres plutôt sympas.
On est entre le pont des Vaquiers et les tourbières de Montals. Et on croise l'ONF.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je me demandais ce que c'était que cette voiture qui me suivait. Des contrevenants. J'ai pas vu le logo, mais je me suis dit c'est peut-être le parc.
Hein. Eh ouais, les
cons. Alors ça va, c'est bon, vous pouvez passer.
Nous on a le droit.
Alors, qu'est-ce que vous enregistrez?
Je travaille à la radio, à Radio Barthas à Florac.
Oui.
Et donc je vais suivre Yannick sur le terrain. On fait un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique sur les tourbières.
Oui, ah oui, oui.
Voilà. Et comme je vais relever les suivis qu'on a mis en place là, les piézos, je le promène.
Oui, d'accord.
En espérant que les chasseurs ne soient pas trop par là.
Et les chasseurs, ils étaient là, et donc là, ils sont à la bécasse, et ils remontent vers les Vaquiers, donc j'y naisse tous, en principe, là il n'y a personne. Enfin, il y a peut-être une autre équipe, là.
Après, là, on va commencer sous la maison forestière, là, donc là, c'est ouvert, donc c'est... s'ils ne nous voient pas, c'est qu'ils nous font exprès.
La maison forestière, j'y naisse tous, c'est mon bureau, voyez-vous.
C'est sympa.
Là, au moins, j'ai une paix royale. Mmh. Je fais ce que je veux. Je ne dérange personne. Tout est allé sur les tables.
Et puis, elle est grande.
Et je suis tranquille. Hein.
C'est du bonheur. Voilà.
Et là, en ce moment, c'est la raison pour laquelle vous m'avez vu rouler tout doucement. C'est la grande opération des arbres de Noël pour les communes, organismes et tout. Alors donc... je prépare un peu, histoire de ne pas perdre trop de temps, parce que... Autrement, celui-là, il est trop petit, celui-là, il est trop grand, celui-là, il est passé, il est tenu,
Ah, les arbres de Noël, mais cette année, ils ne seront pas éclairés, peut-être.
Mais après, bon, il y a toutes les tailles, les grands, les petits... Bon, mais depuis plus de 40 ans maintenant que je fais ça, je commence à avoir l'habitude et... parce que si on ne note pas chaque année ce qu'il demande, et la première année il demande un grand, cinq petits et trois moyens, et puis l'année d'après, deux grands, six moyens, dix petits, et ainsi de suite. Alors donc là, c'est ça et c'est pas autre chose. Parce que c'est pas simple de satisfaire les demandes sans porter atteinte à la forêt.
Il y en a combien qui partent comme ça, des sapins par an ?
Maintenant, je ne délivre pratiquement plus rien, 150.
Ah oui ?
Ah oui, non, mais il y a 20 ans, c'était 600. Hein. Et avec une pointe à 1000 pendant 2 ans. Hein. Là, j'ai passé un temps infini. Mais enfin, bon, à force de répéter, je finis par leur faire comprendre que le bel arbre bien régulier et tout, justement, c'est celui-là qu'il faut laisser en forêt, parce que s'il pousse régulièrement, c'est qu'il n'y a rien autour pour le jeûner. Alors après, il faut toujours seriner. Ben oui, celui-là, il manque une branche parce qu'il a poussé contre le talus, mais il gêne pour la circulation. Bon, par exemple, un truc comme ça, je le fais couper, on récupère le haut. Parce que tôt ou tard, il va gêner pour le passage des camions. Alors plutôt que de le sacrifier pour rien, au moins on le profite.
Ouais, voilà. Le haut, donc, est sympa.
En,
le haut
en
est
gérant
beau,
ça, en gérant enfin de cette manière tous les ans, et bien, ça fait des milliers d'arbres que je livre et personne ne se rend compte de rien. Voilà, bon, mais je vous laisse faire votre reportage.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée. Bonne journée. Allez, au revoir.
Au revoir.
Ici, là, ce qu'on fait, c'est on suit. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'ensemble des tourbières de ce secteur. Et on est à la limite de la répartition sud du massif central des tourbières, qui sont issues du dernier âge glaciaire. Donc avec le réchauffement climatique, ça va être les premières à disparaître. Celles qu'on a plus au sud de la France, elles sont... la température est compensée par l'altitude, en fait, elles sont dans les Pyrénées. Là, on est à des altitudes basses qui sont du relique de la de dernière âge glaciaire.
Tu les as posées quand? C'est quoi? C'est des sondes?
C'est des sondes qui prennent la hauteur d'eau. En fait, on met un tube qui va jusqu'au sol, à travers toute la tourbe. Et on appelle ça des piézomètres. Ça prend la hauteur d'eau qu'il y a dans la tourbière. Et là, elles ont un an, elles vont rester... elles ont un an et demi. Ça va rester pendant 4 ans. Pour essayer de comprendre le complexe, on parle ici de Montalsvaquier. Il y a tout une série de tourbières et on veut voir si elles sont, on veut comprendre comment elles sont en relation au niveau de l'écoulement, parce que souvent on pense que dans les zones humides c'est la pluie qui les alimente, et en fait pour la plupart les tourbières c'est pas la pluie, c'est des zones dites de source, c'est de l'eau, c'est on parle de source diffuse, c'est l'eau qui émerge dans la tourbière par le souterrain, donc c'est pas c'est l'alimentation principale ne vient pas de l'eau de surface, vient de l'eau souterraine. Et on veut voir s'il y a comment elles fonctionnent l'une par rapport à l'autre. Si quand celle de l'amont ça sèche, ça alimente celle de l'aval ou pas.
Et donc ça enregistre des données, toi tu vas récupérer ces données?
Là on récupère les données de hauteur d'eau qui ont évolué depuis plus d'un an, pour voir l'évolution de la lame d'eau à l'intérieur de la tourbière, si elle s'assèche, si elle s'assèche pas, comment ça bouge à l'intérieur. Là, il va falloir se concentrer pour retrouver mon petit tube. Tu vois, c'est pour ça que ça fait des bosses.
Ouais.
On est dans une pente et la tourbière, ça fait une bosse. En fait, c'est l'eau par en dessous qui sort et les plantes se développent sur l'eau, donc ça fait des tourbières dites bombées. En fait, c'est pas la forme de terrain. En dessous, là, on a fait une carotte. Ici, on a 1,20 m de tourbe. Sur une... Elle est magnifique parce que très pédagogique. Il y a une bosse de tourbe au milieu d'un champ plutôt sec. En fait, là, c'est une source. Et la tourbière s'est développée avec ce phénomène de tourbe, de source autour.
Ça, c'est magnifique. Alors, à la recherche de la sonde?
Ouais, qui est par là, si je me souviens bien.
Il y en a combien?
Là, on en a mis une dizaine sur tout le réseau de tourbières. Et il y a de l'eau, c'est bien.
Ah!
Ah bah oui!
Tu bosses quand même avec du papier.
Ah bah il faut. Là, il y a le plan de là où elles sont posées et toutes les photos pour avoir des points de repère. C'est quoi, c'est écrit? Sur la partie amont, pas à l'aval, comme ça on n'est pas influencé par l'eau de pluie qui peut s'écouler dans la pente, pour seulement avoir la hauteur d'eau plus souterraine que l'eau de surface.
Tu l'as trouvé ?
Il est là.
Trop facile.
Ouais, mais là, le sortir va être moins facile. Ah, faut prier. Parce que le système est un peu de la bricole et on a un petit souci technique. Ah, c'est ça le bouchon. Yes, du premier coup.
Voilà, petit son de noir. Tu fais quoi là qui fait 15 cm ?
15 cm, et en fait, c'est un capteur de pression. Qui prend du coup la pression de l'eau qui est au-dessus d'elle. Et à côté de ça, on a des baromètres, qui est caché ailleurs, pour compenser avec la pression atmosphérique. Pour pas comme ça, on enlève la pression atmosphérique et on a que la pression de la colonne d'eau. Donc on a la hauteur d'eau.
Et le baromètre, il est à combien de mètres à peu près ?
Là, il est un peu loin. En fait, sur tout le site, on n'en a mis qu'un, parce qu'on considère que la pression atmosphérique, c'est la même sur 1 ou 2 km carrés. Quand on est dans les rivières, on a le même système. Quand tu prends la hauteur d'eau, tu as aussi un baromètre. Généralement, tu en as un par sonde. Et on a besoin d'être plus précis, là, on est en relatif, en fait. Ce qu'on veut, c'est voir comment ça bouge les unes par rapport aux autres, essentiellement. Fais attention parce que là tu peux t'enfoncer dans le mec dans la faute. Hein. Ah. Je dirais pas comme ça, hein, mais.
Je disais que t'avais un beau métier, mais c'est un métier à risque aussi.
Putain, ça marche du premier coup, je crois. J'ai essayé sur l'autre site où on travaille, les enlever quand c'était sec. Et en fait, ça faisait ventouse au fond. Elle sortait jamais. Bah, tu te dis, bah. Je rentre chez ma mère, hein. Je vais boire un coup, je vais faire autre chose. Quoi.
Et donc c'est quoi, comment tu récupères? C'est un câble USB?
Ouais, c'est un câble.
Ah oui, d'accord. Une espèce d'allume-cigare d'un côté et USB.
Ouais, d'autre. Parce que c'est en fait, pour brancher la sonde, au système, chaque marque a son propre outil, sa propre câble, son propre logiciel. Donc je me trimballe avec 8 câbles différents, sur l'ordi il y a 8 logiciels, chacun a son propre outil en fait. L'inconvénient de ce type de montage, qu'on n'aime pas trop utiliser quand on fait des débits de rivière, c'est que pour prendre les données, tu es obligé d'enlever la sonde. Du coup ta sonde, c'est pas sûr qu'elle soit au même niveau exact quand je vais la remettre. Et si tu veux être très très précis et sur les niveaux d'eau quand on est en sécheresse, où on travaille sur quelques centimètres pour avoir le débit de la rivière, d'enlever la sonde pour la remettre, tu peux avoir un décalage qui est d'un demi-centimètre, mais un demi-centimètre c'est la moitié du débit dans certaines des rivières du parc. Donc c'est gênant, donc il y a d'autres systèmes. Mais là il faut... En tourbière, on est à 1 mètre de profond, 1 mètre 20 de profond, en milieu super acide. Elles y restent 2 ans. On fait une mesure toutes les heures pour un truc qui résiste à tout. Et ce modèle-là est adapté à ça. Et comme on veut pas de la précision, ce qu'on veut, c'est le mouvement relatif des tourbières, de l'eau dans la tourbière, les unes par rapport aux autres. Donc on n'est pas à 2 cm ou 5 cm près. Ce qu'on veut voir, c'est comment ça bouge. Alors c'est bien, c'est toujours mieux d'être précis. Hein. Donc il faut rien qui rentre dedans, on va reprendre les hauteurs et les machins quand on va la remettre. Mais si on a un petit décalage, c'est pas très grave. Parce que là on est sur une étude ponctuelle. Là il y en a une dizaine, à la fin de l'étude, on va en laisser une ou deux, une fois qu'on va dire celle-là, et nous renseigne sur comment fonctionne l'ensemble du complexe des tourbières. Donc on n'a pas besoin d'avoir 10 là, on part d'aucune info. Donc on commence juste. Et on ne sait pas si cette tourbière a une relation avec l'autre, celle d'en amont, celles qui sont 1 km à l'aval, 1 km en amont. Là on va en faire une autre qui est plus bas dans la même, parce que celle-là est spécifique d'être une tourbière en forestière en boulet. Et on ne sait pas si celle-là, cette partie-là, est en relation avec la partie qui est en bas, qui est à 100 mètres d'ici. Et il n'y a que ce système-là qui va pouvoir nous le dire. En espérant qu'elle soit pas naze et qu'elle ait des données et que machin.
Son niveau énergie, ça fonctionne comment ?
Ça, c'est le gros défaut de ces sondes-là. Il y en a d'autres. Moi, j'étais pas fan d'utiliser ça. Celle-là, quand la batterie est naze, tu la jettes. Parce que c'est des joints... C'est aussi cher de changer la batterie que de changer la sonde. Mmh. Parce qu'il faut la protéger.
Je vais noter son numéro. Et j'utilise toujours du papier.
C'est parfait.
21, 38, 463.
Ouais, j'ai le nom et les, je vais prendre les deux. Ginès Boule 2. 21, 38, 463. Tu vois, je suis à 96% de batterie. Donc ça va. Après, depuis plus d'un an sur site.
Est-ce que tu veux cliquer, tu prends la hauteur d'eau.
Ou comme ça on peut la recaler pour vérifier que je suis à zéro ou pas à zéro. Et en fait là on est au niveau de la surface. On a parce que si on, c'est ce que j'attendais. Hein. Pour ça qu'on vient si tard en saison pour relever les données, pour qu'on ait la recharge de la tourbière. Pour qu'on ait, et là on voit on a de l'eau en surface partout, donc c'est tant mieux. Alors que je pensais qu'on en aurait moins. Et du coup, le niveau d'eau, il est en dessous de la surface. Tu le vois pas en surface. Là, du coup, elle est remplie d'eau. La, toute la tourbière de ce secteur-là, elle est saturée en eau. Et on a, en profondeur, on a zéro. On est au niveau de la surface. Donc, on pourra recaler la sonde quand on va faire la modélisation, les suivis des données et les modélisations en disant, elle, si elle nous indique moins 2, elle a tort. On est à zéro. Si elle nous indique plus 5, elle a tort, elle est à 0. Ça nous permet de recaler un peu ponctuellement les données. Normalement, si j'avais eu le temps, depuis un an, il aurait fallu y passer régulièrement pour reprendre la hauteur. Comme ça, on avait plusieurs points de référence pour recaler la courbe. Chose que ben, j'ai pas le temps de venir tous les jours ici. Ça serait bien, hein.
La dernière manip, tu notes quoi?
Je note la hauteur d'eau. En fait, comme ça, pour le recaler après, donc c'est niveau d'eau, il est à la surface, donc c'est zéro. Et on va, quand on traitera les données, on va vérifier qu'elle nous donne la bonne hauteur. Généralement, l'électronique, quoi qu'on en dise, c'est très bien. Hein. Sans l'électronique, on ne pourrait pas faire ce travail. Mais... ça dérive, ce qu'on appelle, ça dérive tout le temps. Ça demande des contrôles réguliers parce que les capteurs, chaque jour, ils dérivent de 1 ou 0,1 mm. Mais au bout d'un an, tu peux avoir des grosses dérives. Donc on a, sur certains, il y a des gros soucis avec des gros travaux qui peuvent pas être utilisés parce que les sondes sont parties en vrille. Quoi. Mais comme n'importe quoi, on prend un réveil, une montre, au bout de 3 ans, ta montre ne sera plus à l'heure. Malgré que c'est de la haute technologie, de l'électronique, c'est super fiable et machin, ça dérive. Pourquoi? Alors là, il faudrait demander à un électronicien. Là, moi, sur les travaux que je fais, j'ai quoi? J'ai 4 marques de sondes différentes. Elles ont toutes un avantage et un inconvénient. Et là, je bosse avec des chercheurs qui, eux, ils testent. Ils achètent toutes les marques. Ils les mettent tout au même endroit et ils voient en fonction de ce qu'ils veulent ce que c'est. Il y en a, c'est souvent c'est sur les prises très fréquentes où on constate le plus de dérives. Là on essaye un nouveau truc de suivi de qualité des eaux avec des prises de mesure toutes les 10 minutes. Et là on voit tout de suite qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Quoi. La sonde elle explose, on sait pourquoi.
Et pourquoi tu ne travailles pas avec les mêmes?
Il faut les adapter au milieu où on les met et en fonction de la donnée qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est une sonde qui résiste à tout. Parce que les tourbières, c'est de l'eau acide, très très acide. Pour avoir un matériel là, tu vois, au bout d'un an, elle sort, elle est nickel. On a l'impression qu'elle sort de sa boîte. Tu prends une sonde avec un peu de métal, elle serait défoncée, bouffée par l'eau acide. Donc, c'est un compromis. Et puis là, la personne qui nous accompagne sur ce projet, il avait l'habitude de bosser avec ses sondes. Donc on a pris ses sondes, moi que je ne connaissais pas, on en a d'autres. C'est pas celle-là que j'utiliserai en rivière, par exemple. Elles sont trop grosses. J'en ai d'autres qu'on peut enlever comme ça, mais qui sont qui font 3 cm. Et sinon, on les met, on a des choses en fixe. Mais les sondes en fixe, le problème qu'il y a, c'est que t'as un enregistreur qui est déporté. Donc t'as un câble avec un enregistreur quelconque, hein. Ça ressemble à n'importe quoi, mais c'est une carte. Hein. Et il est déporté, donc il faut que ce soit sur un site où tu puisses avoir ta sonde là où tu veux mesurer quelque chose et à un endroit pour mettre ton enregistreur. Donc c'est encore plus visuel, tu peux le voir de plus loin, c'est plus l'enregistreur, il est à l'air libre, donc les batteries, les écarts de température, c'est ce qui les défonce, qui leur fait le plus de mal. Donc c'est plus, ça dépend des sites en fait. Maintenant là on était à Ginestoubboulé 2, on va à Ginestoubboulé 1.
Ce serait quoi les conséquences si ça sèche?
Perte de volume d'eau. Et déjà tout le milieu naturel que tu vois, il n'existe plus. T'auras autre chose, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est toujours pareil. Oui, mais on va pas passer de ça à un désert de pierre. On aura autre chose, mais ce milieu naturel n'existera plus. Cette flore spécifique non plus, mais ça, à l'échelle du réchauffement climatique, quand on parle de ça, on s'en fout quelque part, c'est un peu un détail. Mais tout carbone qui est piégé là-dedans, il va repartir dans l'atmosphère. C'est les grosses inquiétudes en ce moment de la recherche et des suivis, des réchauffements climatiques, de toutes les tourbières du Nord-Europe et toute la Sibérie. Tout ça, c'est des tourbières sur des milliers de kilomètres carrés. Et la fonte du permafrost, la zone gelée en permanence, qui est en train de dégeler, et ça, ça va faire des relâchers de carbone qui n'ont pas été intégrés dans les calculs du réchauffement climatique. Et là, on a des millions de tonnes de carbone qui peuvent repartir dans l'atmosphère. Et c'est pas dans les modélisations.
Ah.
Eh ben non, on le sait que maintenant. Parce que c'est l'effet, comme on dit, c'est l'effet boule de neige. Il y a quelque chose qui commence à déconner, qui va entraîner un autre phénomène, qui en entraîne un autre. Et là, c'est le dégel du permafrost qui bloque des volumes conséquents de carbone dans le sol. Plus tous les virus et potentiels là, qui n'existent plus depuis des milliers d'années, qui potentiellement peuvent se dégeler, et eux, c'est des opportunistes. Ça les dérange pas d'être congelés pendant 3 siècles, et puis le jour où ils sont décongelés, ils font « Oh, oh, il n'y a pas un petit quelque chose là où je peux aller manger ?» Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques qu'on ne maîtrise pas.
De ma faute, sache-le seul, si nous deux ça chancelle souvent.
Non, ce n'est pas de ta faute, sache-le seul, si nous deux s'attendent de temps en temps.
J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout, pour que tu me reviennes heureux.
J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout. Mais j'ai jamais cessé d'être amoureuse.
Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. Et j'ai peur quand j'y pense d'oublier qui j'étais.
J'attends
de ton envie qu'elle ressuscite.
J'attends
de ta colère qu'elle se dissipe.
J'attends
de mon espoir qu'il se décide.
J'attends
de nos enfants qu'ils s'épanouissent.
J'attends
de moi que je m'épanouisse
devant ce qui m'attend pour demain.
On retiendra de notre ambition qu'elle était digne, avec un soupçon d'utopie.
On retiendra de notre passion qu'elle était fine, pas du genre de celle qui détruit.
J'aimerais tant que ça marche, que je m'habituerais à remettre mon titre en jeu.
J'aimerais tant que ça marche, et je recommencerais s'il fallait, même si je pense qu'on pourrait faire encore mieux. Alors j'attends. temps que la vie passe, que le temps fasse son effet. J'ai peur quand j'y pense, de m'éroder, de m'user. J'attends
ton envie qu'elle ressuscite.
J'attends
ta colère qu'elle se dissipe.
J'attends
de mon espoir qui se décide.
J'attends
nos enfants qui s'épanouissent.
J'attends
de moi que je m'évanouisse.
Devant ce qui m'attend pour demain.
Pour demain.
Vous êtes bien sur Radio Barthas, vous êtes bien sur le 107 et aujourd'hui, quel plaisir de recevoir une association. C'est une association, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord?
Oui.
Ô combien importante en Lozère, mais aussi en France, le CIDFF. On va tout comprendre, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, et elles sont venues en nombre, c'est vraiment génial. Christelle Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes la présidente actuelle.
Oui.
Christina Wagner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'honneur. Ça vous fait sourire, mais on parlera tout à l'heure pourquoi c'est important que vous soyez présidente d'honneur de cette association. Valérie Lucas, pardon, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes la directrice actuelle.
Effectivement.
Et Catherine Morand, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez l'ancienne directrice de l'association.
Oui, exactement.
Et pourtant, c'est un combat duquel on ne se sort pas. Une fois qu'on a mis un pied dans l'association, c'est impossible d'en sortir, Christina.
Oh ben, moi, j'en suis sortie tout simplement parce que c'est amende et moi, je suis à Florac.
La raison est assez simple. Eden est avec moi. Ça va, Eden?
Eh oui, ça fait longtemps. On n'était pas ensemble, en vrai.
Ah ben, en vrai, ça fait du bien de t'avoir en studio. Eh ben, vas-y, je te laisse la première question. Je pense qu'elle se contextualise.
Un petit peu. Moi, ma première question, en fait, c'est juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au CIDFF?
Alors, peut-être expliquer, ce que c'est un CIDFF. Hein, à l'origine, c'est une association qui était... Alors, si on va peut-être remonter au moins, peut-être pas les premiers CIDFF, mais ceux qui ont été peut-être mis en place à partir de 82, mais sachant bien que ça a commencé avant. Les premiers CIDFF s'appelaient les CIF, hein, Centre d'information des femmes, hein, qui ont commencé, je crois, en 70. 72, en 72, mais ça a été vraiment institutionnalisé en 82, où vraiment par Yvette Roudy, elle a déployé des chargées de mission sur les départements qui, elles, ont commencé à mettre en place des CIDFF. En quelque sorte. Nous, la première chargée de mission en Lozère, c'était Madame Marie-Claude Monod, qui s'est vraiment battue, franchement, à l'époque, parce que c'était en 82 qu'elle est arrivée en Lozère. Elle est arrivée donc à la préfecture de Mende, installée dans un... Pour la petite histoire, quand même, je vais le raconter, dans un toilette, puisqu'il n'y avait pas de bureau. Donc, on a enlevé le toilette et on en a fait un bureau. Donc, c'est quand même... On comprend l'environnement, l'état d'esprit de l'époque. Hein, et c'est elle qui s'est battue, hein, effectivement, pour la création des CIDFF, d'un CIDFF en Lozère. Et on va dire qu'il y avait deux départements qui n'étaient pas pourvus de CIDFF. La Lozère était dedans.
C'est fou, c'est que c'était il y a juste 30 ans.
C'est
tellement proche.
40 ans.
Ah, c'est il y a 40 ans. Je crois que vous fêtez vos 30 ans cette année, comme vous voulez.
Ah oui, non, mais le premier CIDFF avec Christ, c'était en 82, hein, madame. Madame Monod, Marie-Claude Monod, c'était en 82, donc elle était. Voilà. Et elle s'est battue pour mettre en place en 91, effectivement, le CIDFF en Lozère.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec toutes, effectivement, les évolutions avec le temps. Donc les CIDFF, c'était à l'origine. C'est accompagner toutes les femmes dans l'autonomie, hein, parce que on parle de l'origine des CIDFF, dans l'autonomie, c'est-à-dire par le travail, dans sa vie professionnelle, familiale, et c'est l'autonomie des femmes dans toute sa vie personnelle, professionnelle, familiale, et l'autonomie, elle passe effectivement par le travail. Donc c'est un petit peu aussi la place, redonner une place aux femmes dans notre société, puisque les femmes, elles étaient ou mari, ou elles étaient femmes d'un mari, mère d'enfant, mais c'était pas un statut. Et on va dire que peut-être la loi qui a peut-être rendu une vraie place à la femme, c'est le droit de vote, hein, par le général de Gaulle, c'était en 45, je crois que les femmes ont voté en
46 pour la première fois.
Pour le premier vote. Voilà, et on va dire que là, elles sont reconnues à part entière citoyennes. Donc je pense que c'est des. Voilà. C'est en tous les cas pour moi, mais je pense pour beaucoup, c'est pas nier tout ce qui s'est passé avant, hein, parce qu'on va dire que ça part de très loin. Il y a les suffragettes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes. Il y a toujours eu des femmes qui se sont battues pour leurs droits, pour être reconnues en tant que femmes, avoir un statut au même titre que les hommes. Mais on va dire que cette loi du général de Gaulle a assis un petit peu notre combat, quelque part.
Et le combat qui n'est pas fini, puisque depuis jeudi dernier, les femmes travaillent gratuitement en France. C'est quand même fou. Voilà. Allez-y, c'est une petite discussion. Donc, ça veut dire qu'on n'y est pas encore aujourd'hui.
Ben non, on n'y est pas, effectivement. Les femmes gagnent moins que les hommes, et
pour
fonctionner, si on a un salaire égal, effectivement, les femmes s'arrêteraient de travailler à la fin du mois d'octobre chaque année.
Voilà, d'où l'importance.
Même s'il y a une évolution et que l'écart se réduit, c'est vrai que quand on parle de l'écart de salaire, il faut toujours se référer à travail égal, salaire égal, temps de travail égal, conditions de travail, etc. L'écart se réduit, mais il reste toujours présent. Les femmes, lorsqu'elles sont employées, sont toujours présumées futures coupables de maternité, et donc venant perturber le fonctionnement de l'entreprise ou de l'administration, et donc elles sont sanctionnées dès leur prise de poste, en fait.
Alors, on a parlé du début du travail pour l'émancipation des femmes. J'en perds mon stylo, tiens, c'est fou. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire les différentes missions qu'aujourd'hui assume, entre guillemets, le CIDFF ?
Peut-être d'abord pour exister un CIDFF, l'obligation sine qua non, c'est d'avoir une juriste. Hein, le service juridique est un élément clé, hein, c'est-à-dire l'accès au droit, c'est-à-dire que toutes les femmes peuvent avoir connaissance de leurs droits à tous les niveaux, parce qu'en France, on a des lois qui ont été mises en place, et bon, peut-être que, on va dire, à aujourd'hui, peut-être pratiquement toutes les lois sont là pour effectivement donner une place aux femmes la place, la même place qu'aux hommes, hein, je veux dire la même, hein, parce que je vois pas, on est, voilà, hein, c'est notre société constituée d'hommes et de femmes, et sauf que l'application de ces lois, c'est autre chose, voilà. Et dans notre, je crois, dans les comportements, il y a quelque chose un petit peu de culturel qui reste, et qu'il faut effectivement changer de regard peut-être sur nos fonctions, et que tout le monde s'y mette, hein, hommes, femmes. C'est pas donner une place aux femmes, c'est pas enlever la place des hommes, c'est pas absolument pas ça, hein, c'est être ensemble sur la même sur les mêmes champs d'action, hein, on travaille ensemble, je veux dire, au même titre que, peut-être je vais pas le dire, mais ensemble, hommes, femmes, on constitue notre société, donc on a la même place, je vois pas pourquoi, enfin moi je me dis, quand je pense qu'il y a même pas 50 ans en arrière, on disait que le cerveau des femmes était plus petit que celui des hommes, comme celui des singes était plus petit que celui des hommes, donc comme les singes étaient moins intelligents que les hommes, ben les femmes l'étaient également, hein, vous voyez la comparaison, donc je me dis, il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment un travail de fond, il y a des lois et tant mieux, mais il y a plus que ça, il faut changer les comportements à mon avis, et c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on voit que les choses bougent, mais les plafonds de verre existent toujours, l'inégalité des salaires existe toujours, les comportements vis-à-vis des femmes, pour certains, vous voyez, les violences conjugales existent toujours, le sexisme existe toujours, vous savez, les violences de rue pour les femmes, et bon, et Dieu sait, là, sur tout là, on en a tous plus ou moins connu, et qu'à l'époque, moi, quand j'étais jeune, on était toujours surprise de ces comportements. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, c'est pas possible, on peut pas accepter ce genre de choses, hein. On va pas pincer les fesses des hommes, hein. Je veux dire, ça existe pas, non mais c'est vrai, enfin, on va pas regarder comment les hommes s'habillent, on regarde comment les femmes s'habillent, donc c'est tout ça, enfin c'est bête, mais c'est tout ça aussi.
Valérie, pour rebondir sur la question d'Hélène tout à l'heure, c'est quoi votre rôle en tant que directrice, et justement qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du CIDFF?
Alors moi, mon rôle en tant que directrice, eh ben, je suis de l'interface entre le pilote, donc le conseil d'administration du CIDFF, et puis les salariés qui sont à l'ouvrage tous les jours. Donc c'est de permettre de coordonner l'équipe, de coordonner les actions qui sont proposées en lien avec les partenaires, hein, les administrations notamment, pour répondre aux besoins des femmes sur le territoire de Lozère, puisqu'on peut pas faire sans cohérence avec les politiques publiques, puisque l'association est agréée par le ministère, alors ça change de nom, hein, ou par le service central aux droits des femmes, et bénéficie de financements publics, sans ces financements on ne peut pas fonctionner. Et du coup, moi je peux être amenée à proposer des projets d'action au conseil d'administration qui va les valider, faire remonter les besoins, être auprès de mes collègues. Ce matin par exemple, nous étions en réunion d'équipe et on échange sur nos actualités, sur les actions qu'on est en train de décliner, sur les situations qui nous préoccupent. Et par exemple, ce matin, sur cette seule réunion hebdomadaire, on a évoqué deux situations où on avait des craintes pour les femmes. Même pour la sécurité des femmes, avec la possibilité peut-être de leur proposer des téléphones grave danger, et un autre dossier où on se posait la question du mariage forcé. Donc même en Lozère, sur une réunion hebdomadaire, trois sujets abordés en réunion d'équipe au CIDFF, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est de voir je veux dire le chef d'orchestre en fait, entre les collègues, entre le conseil d'administration, les partenaires.
Alors justement, est-ce que vous parliez, pardon, de trois mariages forcés?
Non, un.
Pardon.
Les deux situations, en fait, on avait trois situations préoccupantes.
Là, c'est voilà. Tout à fait clair. Est-ce qu'on a des chiffres sur les violences faites aux femmes, etc. Comment ça se passe? Comment vous centralisez tout ça? Est-ce que d'ailleurs, c'est utile de dire des chiffres?
Alors, c'est utile parce que ça donne à voir de l'activité de l'association. Pour l'association, sur l'accueil des femmes victimes de violences, donc tout à l'heure, on nous interrogeait sur quels sont les services qui sont proposés. On a au sein de l'association beaucoup développé depuis une dizaine d'années tous les services d'accompagnement des femmes, d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc ce que disait la présidente tout à l'heure, notamment avec l'appui du service juridique, mais aussi du service psychologique, d'un accueil de jour pour femmes victimes de violences et d'un dispositif d'hébergement avec des actions parallèles, par exemple des groupes de parole, des ateliers de sophrologie, etc. Et au service psychologique, c'est 110 femmes par an qui sont accompagnées, hein, sur plusieurs entretiens pour une écoute sur leur situation. Parfois, c'est des femmes qui n'évoquent pas les violences. Elles n'ont pas encore mis de mots sur ce qu'elles vivaient. Et parfois, c'est des femmes qui ont engagé des procédures et qui ont besoin d'être soutenues et accompagnées pour ces procédures qui peuvent parfois être vécues comme une nouvelle violence. Sur notre accueil de jour, donc, qui est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h, sans rendez-vous particulier, là aussi, 2021, c'était 90 femmes qui avaient été accueillies. Mais au jour d'aujourd'hui, pour 2022, fin octobre, on est à plus de 100 personnes. Donc on a encore une augmentation du chiffre. Et puis on a aussi développé la partie hébergement avec aussi les soutiens de l'État sur des hébergements d'urgence, puisqu'on a à ce jour 4 places d'hébergement d'urgence, voilà, plus une place volante, et puis des hébergements plus temporaires, ce qu'on appelle des places d'ALT, allocation logement temporaire. Et là on en a 3 place, si je ne me trompe pas, si je compte bien.
Est-ce que ce sont des femmes de Lozère ou elles viennent d'autres départements pour justement échapper à une espèce d'emprise ?
On a les deux. Sur l'hébergement, on a actuellement des femmes qui arrivent de d'autres départements pour effectivement rompre avec le conjoint violent. D'où aussi l'intérêt. On ne propose pas simplement un toit, mais c'est vrai que l'équipe du CIDFF, elle est plurielle. On a des professionnels, juristes, psychologues, éducatrices spécialisées, des conseillères emploi. L'idée, c'est de pouvoir accompagner globalement la personne. Donc une personne qui arrive de l'extérieur, qui se dit, oui, je suis à l'abri, mais peut-être que je pourrais faire ma vie. On peut aussi travailler avec elle le projet, et si elle souhaite rester en Lozère, c'est travailler avec elle son projet peut-être professionnel, de formation, d'emploi, l'intégration, éventuellement l'accompagnement vers les écoles quand il y a des enfants, vers la crèche, les temps d'écoute, etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale qui est proposée par le CIDFF Lozère.
Christelle. Je voulais juste dire que pour les 110 femmes accompagnées par la psychologue, c'est sur mande, parce qu'elle fait très peu de permanence extérieure, pratiquement pas. Donc c'est pour dire que c'est sur mande, hein, puisque le siège de la structure se trouve à Mende, hein, immeuble Le Britext à Mende. Donc c'est pour signaler, moi ça m'a toujours beaucoup impressionné, 110 femmes sur mande, hein, qui sont victimes de violences conjugales. Voilà, donc
dedans, on a une dizaine qui sont accompagnées sur Saint-Chély.
Voilà. Mais ça fait la majorité, c'est sur Mende quand même. Et je voulais quand même le signaler parce que pour moi, ça me semble important. On essaye, bien sûr, on a des permanences et si besoin, on va y aller, hein, puisqu'il y a sur Saint-Chély. Et ça, ça fait pas très longtemps. Hein, on développe en fonction des besoins et de ce qui remonte. C'est aussi ça, la structure. Mais voilà, tout le monde dit la Lozère, c'est beau, c'est joli, mais il n'y a pas que. Hein, pas que. Il y a aussi le revers. Comme ailleurs, il y a les mêmes situations aussi dramatique et des fois aussi sordide, je vous le dis. Voilà. C'est pour mettre un petit peu. C'est nécessaire. Je pense que les centres d'information sur le droit des femmes et des familles sont nécessaires parce que ça permet aux gens de parler, de dire voilà, ce qu'elles ont, quand elles ont un lieu. Et c'était là-dessus que Madame Monod, Marie-Claude Monod, la première chargée de mission, c'était effectivement dans ce but d'ouvrir ces centres d'information pour que les femmes puissent parler.
Le centre d'information du droit des femmes et des familles, je pense qu'il y a une question pertinente que tu as posée, Eden.
Ah ouais, du coup, moi, je viens d'avoir 20 ans, du coup, j'ai un peu, je vois encore un peu le truc sur le prisme de l'adolescence, et je me demandais si un ado, il voit que sa mère est victime de violence, est-ce qu'il peut venir vous voir ?
Bien sûr, hein, y a pas, pour nous, y a pas, on ne ferme pas la porte, on écoute et après on voit comment, si c'est possible, parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit, on ne peut pas intervenir si la personne victime ne fait pas la démarche. On ne peut pas. Mais peut-être, si un adolescent, si on trouve effectivement, on vérifie de la véracité de son propos, on peut essayer de trouver un moyen de... Voilà. Mais on ne peut pas l'obliger. Hein. C'est effectivement une démarche de la victime, une démarche personnelle. Voilà.
Christina, comment vous en êtes arrivée, vous, à rentrer au CIDFF? Comment ça s'est passé?
Eh bien, je ne suis pas rentrée au CIDF. J'ai participé à la création.
À la création, carrément. Ouais.
Voilà. Et donc... Oui, bien, sur Florac, dans les années 70, on a mis en place des formations pour toutes les femmes rurales, qui étaient financées par le ministère de l'Agriculture. Et c'était au CEP de Florac, au Centre d'expérimentation pédagogique.
Maintenant, l'Institut Agro.
Voilà.
Super agro pour ceux.
Voilà. Et donc, là-dedans, il y a eu... en fait, les formations du centre étaient destinées à l'enseignement agricole. Mais comme le travail de terrain faisait... participer beaucoup de gens sur le terrain. Et on s'est dit qu'il fallait, il fallait faire quelque chose pour le terrain. Et donc, le quelque chose a démarré par des actions pour les femmes. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les 200 heures rurales, où y en avait, c'était une journée par mois, et non, une journée par semaine. Et donc, il pouvait y avoir deux ou trois groupes en même temps. À chaque fois sur un autre jour de la semaine. Et ces groupes se situaient depuis Saint-Jean-du-Gard jusqu'au Mont-Lozère, quoi. Enfin, il y en avait. Oui, et le Causse, etc.
Un large territoire, quand même.
Oui, oui. Et donc... les femmes pouvaient participer à plusieurs formations. Donc, si elles venaient une année à une formation, si 3-4 ans après, il y en avait une autre, elles pouvaient de nouveau participer. Et l'objectif de ces formations, c'était que les femmes ne se sentent plus complètement oubliées sur le territoire. Parce qu'en fait, elles n'avaient aucun statut. Donc, elles étaient femmes d'eux. Mais elle n'était pas ni agricultrice, ni artisane, ni commerçante.
Alors que la plupart du temps, elle travaillait autant...
évidemment. Évidemment. Surtout qu'en plus, elle s'occupait de leurs enfants, elle s'occupait des personnes âgées. Elles avaient un double métier, comme maintenant encore.
Et justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur... la société en 2022, après 30 ans, voire 40, hein, puisque si, voire même 50 ans, c'est vrai.
70.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette évolution? Est-ce qu'on va vers le bon?
Oui, je pense quand même qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé, parce que beaucoup de femmes ont maintenant un métier. Elles ont un métier, une activité, et donc ça leur permet de ne pas tout accepter. Donc, dans le temps, une femme ne pouvait pas divorcer parce qu'elle n'avait plus rien. Alors qu'actuellement, une femme, si elle veut avoir sa propre vie, eh ben, elle peut la choisir. C'est pas facile, mais elle peut la choisir. Voilà.
Catherine, je vais vous poser un peu la même question. quel regard vous portez aujourd'hui, et notamment sur cette évolution, en fait, si tant est qu'il y en a une?
Alors moi, ce que je peux dire par rapport à ce que vient de présenter Christina, c'est que j'ai fait partie de ces groupes de femmes. Je suis quelqu'un qui a suivi son mari pour s'installer dans les Cévennes dans les années 80. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une opportunité, j'allais dire, très, très intéressante de participer à ces formations données au CEP, où on rencontrait toutes les femmes du territoire un peu dans la même situation, parce que moi, j'avais effectivement pas de statut. J'étais conjointe d'exploitant. Du reste, ça se retrouve maintenant sur la retraite. Bon, et quand au bout de 15 ans, j'ai répondu à une offre pour le mot directrice et un peu, j'avais qu'un mi-temps, on n'était que trois, donc c'était pas du tout comme Valérie à l'heure actuelle. J'ai donc participé à l'évolution du CIDFF. Au départ, c'était vraiment que des questions juridiques. Les personnes qui appelaient, un peu des femmes victimes de violences, mais elles n'osaient absolument pas se déplacer. Je me souviens d'une personne appelant d'une cabine téléphonique dans un village perdu au Nord-Lozère. C'est plus du tout le même contexte actuel. À cette époque-là, je pense que les femmes, elles n'osaient pas parler. Elles n'osaient pas se déplacer. D'abord, elles avaient très peu de moyens. Et effectivement, tout le travail qui a été fait par la chargée de mission de l'époque et par le développement du CIDFF et ses différents services, on sent que la Lozère actuelle est à peu près dans le même état que tous les autres départements de France. Alors que dans les années, même 90, on ramait pas mal. On était quand même loin de beaucoup de choses.
Quand un peu pas mal de départements ruraux.
Ruraux, oui, mais sur nos 97 départements, il devait y en avoir 4-5, j'allais dire l'Ariège, enfin, tous ceux qu'on connaît, Creuse, Corrèze, Lozère. Mais bon, on a mis quand même du temps, et maintenant je trouve qu'on a bien rattrapé, et il faudrait qu'on continue, parce qu'à l'heure actuelle, au bout de 30 ans, là, on va déménager, on va changer de local, on a besoin à nouveau d'aide pour nous soutenir, parce qu'on est maintenant à plus de 10 salariés. Donc, c'est quand même super important. En 30 ans, on était au départ 3 avec des mi-temps, des tiers-temps. Enfin, c'était pas grand-chose. Et là, maintenant, c'est quand même fabuleux. Et il y a de la demande. C'est pas... C'est ça. C'est important.
Eh bien, simplement, moi, je peux dire que je suis complètement d'accord avec Cathy. On sent... quand au début que j'étais présidente, c'est vrai qu'il y avait eu un moment... Il y avait plus de la nouvelle chargée de mission venait juste d'arriver, donc, en 2001. Moi, j'ai été présidente en 2002. Pendant 5 ans, le poste a été vacant. Ça veut dire qu'au niveau des financements, il n'y avait plus rien. C'était certainement très compliqué pour le CIDFF de fonctionner. Donc, quand moi, je suis arrivée en 2002... Il y avait vraiment un travail de fond à refaire, un travail avec la nouvelle chargée de mission et qui s'appelait Madame... Il y avait Marie-Claude Monod, la première, la seconde, c'était Madame Sophie Pantel, qui était vraiment, comme Marie-Claude Monod, je crois, un soutien indéfectible. Et puis, elle vraiment nous a accompagnés pendant ces 21 ans, pour Madame Pantel, 16 ans pour Madame Monod. Et je pense à ce travail collectif, comme le disait Madame Monod. On a pu travailler, parce que moi, je suis arrivée en 2002. Tout était à reconstruire, parce qu'il y a eu ce moment de vacances par rapport à la chargée de mission, manque de financement, etc. Donc c'est vrai qu'on est parti assez fort avec de suite, parce qu'on avait il a fallu embaucher la juriste, parce que là, il y avait plus de juriste, il a fallu refaire l'agrément, la juriste, un animateur, une secrétaire, on a repris les choses avec en s'appuyant sur ce qui avait été fait. On a redonné un essor à la structure, parce que je sais qu'à l'époque c'était des permanents sur Langogne, Marvejols. Tout doucement, avec le temps, on a augmenté. En 2007, on a embauché la première psychologue. C'était grâce à Madame Pantel, parce qu'il trouvait que sur le territoire il n'y avait que des psychiatres où il y avait où c'était remboursé, mais il n'y avait pas de psychologue. Donc les femmes qui avaient des traumatismes de violence, etc., il fallait qu'elles payent encore. Enfin, c'était double peine pour elles. Donc il y a eu une première, je trouvais que c'était important, un poste de psychologue pour accueillir ces femmes en 2007. Et moi, ça fait donc 20 temps. Au début, on avait un tout petit local de 50 mètres carrés. 10 ans après, donc, ma présidente, on a acheté un nouveau local qui faisait 140 mètres carrés. Et 10 ans après ces derniers achats, on a cherché un nouveau local qui fait 200 et quelques mètres carrés. Je vais vous dire,
on va pas être fier de ça, parce que ça veut dire que c'est grave, hein, que ces situations, on est en 2022, on est loin encore de solutions, voilà. On est encore dans un développement parce qu'on sent des besoins nécessaires. Et moi, je vois qu'en 20 ans, on n'a pas arrêté de se développer, je dirais malheureusement et heureusement pour ces femmes. Voilà, donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, on a ce projet, hein, qui, on a acheté ce local. On a choisi l'achat parce qu'en Lozère, vous avez bien compris que le loyer, c'est extrêmement cher. Et donc, c'est pour l'association et c'est pas pour nous. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on demande s'il y a des... Je sais pas, hein, s'il y a des gens qui ont, je sais pas, de l'argent trop, je sais pas, ou la cause est bonne, voilà, qui peuvent nous aider, à nous soutenir. Hein. Et c'est vrai qu'on fait appel. Hein. Vous savez que on peut toute aide, tout argent qui est versé au CIDFF est dégrevé des impôts. Donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Chacun peut. On va lancer un crowdfunding,
financement participatif, ça marche bien aussi.
C'est ça, pour nous aider. Et vraiment, on espère que les Lozériens ont bien compris que la cause était bonne pour toutes ces femmes. Je pense que je défends vraiment hommes et femmes ensemble. Il me semble que c'est ensemble qu'on arrivera à dépasser ces espèces de clivages qu'on n'arrive pas, nous, en tant que femmes, à comprendre. Mais on comprend bien qu'il y a toute une culture et une éducation derrière. Mmh. Voilà.
C'est pour ça, pour rebondir sur ta question tout à l'heure, tu parlais de l'adolescent qui souhaiterait, est-ce qu'il pourrait rentrer au CIDFF ? Le CIDFF, sur ces dernières années, développe, en lien avec l'éducation nationale, hein, notamment, les interventions auprès des jeunes. Donc on a commencé par les lycéens. Donc on intervient auprès de classes de seconde, on peut intervenir sur d'autres classes à la demande des établissements, on intervient auprès de collégiens, auprès de primaires, et là on se lance auprès des maternelles. Voilà, donc on est passé, on a près de 80 interventions scolaires, donc qui sont financées par le droit des femmes, par l'ARS, par la région. On les développe parce qu'on a des financements, mais on travaille en grande collaboration avec les services techniques de l'éducation nationale, et on a pu développer. Et je pense que ça, c'était un vœu de la présidente d'aller parler de ces questions d'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge pour faire de la prévention, en fait.
C'est ça, c'est comme le harcèlement ou autre, ça démarre tôt, et plus on prévient tôt, et moins on guérit tard.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, comme le dit Valérie, la directrice, donc on a l'objectif, et je le dis parce qu'il y a très longtemps, il y avait de l'EDAS, vous savez, et maintenant c'était avec un président de l'EDAS, on discutait, donc je vous parle de ça en 2000, peut-être 2005, 2006, c'était un monsieur, je ne me rappelle plus son nom, et on avait dit que le jour où on toucherait, nous, les CIDFF, les écoles maternelles, on aura tout gagné. Parce qu'on sait bien que tout commence au plus jeune âge. L'éducation, c'est au plus jeune âge. Et maintenant, on est pas que la prévention, mais aussi dans la prévention. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est important, parce que toujours travailler dans le curatif, ça ne fait pas avancer les choses. Et depuis quelques années, là maintenant ça va faire... On était avant centre agréé de formation, on était Datadoc, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant on est Calliope, on est agréé depuis le premier des 13 départements à avoir cet agrément, hein, comme centre de formation. Hein. Et on a là aussi le certifélaire, où on est le second, avec félicitations du jury. Donc c'est vrai qu'on essaie de développer ces compétences, et il y en a au sein de l'équipe, hein, qui travaille sur le terrain. Il y a vraiment des compétences, il y a des gens vraiment engagés, et il me semble que c'est important de travailler effectivement sur les formations, les sensibilisations dès le plus jeune âge. Et c'est de savoir qu'on est cette année, depuis l'année dernière, hein, pour les pour les maternelles. Je trouve que c'est pour nous franchement une... Alors, je remercie effectivement que ce soit les chargés de mission, la DDETSPP, tous les financeurs, tous les services de l'État, etc., de nous aider dans ces... Parce que c'est... On ne peut pas le faire. On est une association. On ne peut pas vivre sans ces financements. Mais on sent qu'il y a une écoute et puis que les politiques publiques ont évolué et que nous, on est un petit peu... aussi fixé sur les politiques publiques et on avance avec eux. Voilà, ou c'est eux, enfin je sais pas. En tous les cas, intelligemment, pour une cause qui nous semble nationale, hein, enfin je veux dire même internationale, si on va pas dire.
Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues sur cette antenne Radio Bartas, et vous êtes aussi au magie chez nos amis de 48FM qu'on salue et qu'on embrasse. Merci Eden. Le CIDFF Lozère a un super site internet, je tiens à dire qu'il est très clair. Vous retrouvez toutes les infos et je mets évidemment le lien sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. N'oubliez pas, les amis, nous fêtons les 10 ans de Radio Bartas ce samedi à Bédouès. Venez, venez, venez. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On est bien sur Bartas. On se quitte avec Anouar, Brahem, Astrakhan Café. À lundi, ciao. Thank you.